Si. Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez Radio 1, la première FM de Tahiti. Il est midi, tout de suite, les titres de votre journal local présentés par Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Benny, bonjour à tous. On fera le point sur la grève générale, toujours pas suspendue, sur les perturbations et les débats qu'elle engrange et sur les négociations qui doivent reprendre à 16h30. On parlera ensuite littérature avec les aventuriers du Pacifique, tome 4. Vous entendrez son auteur Daniel Pardon. Et puis on fera un détour du côté de Caen pour le concours de Miss France qui aura lieu dans 12 jours.
Et on commence tout de suite avec la grève générale qui alimente toujours le débat.
Et oui, ce matin, les partenaires sociaux étaient réunis au CESEC, au menu un texte sur la protection de l'environnement. Mais dans les allées du Conseil, c'est bien la grève générale qui alimentait les discussions. Vous le savez, aucun protocole d'accord n'a été signé malgré les négociations de vendredi et samedi. Peu de grévistes dans les administrations et les entreprises, mais un barrage filtrant est toujours en place au port autonome où seules les denrées périssables quittent la zone commerciale. Les vols vers Raiatea sont toujours annulés. Les rotations vers Bora Bora sont ralenties. Bref, les perturbations sont toujours là. Pour Christophe Play, chef de file de la CPME, il faut que ce mouvement cesse, d'autant qu'il n'est que très peu suivi. Écoutez-le.
On est sur des questions qui ne concernent même pas le travail, donc les gens n'adhèrent pas du tout, la première chose. Ils ont bien compris qu'on vient de traverser une période qui était difficile. Et on voit bien dans les marches et dans le soutien à ces grèves, c'est extrêmement limité. D'ailleurs, moi, je ne vois pas pourquoi le pays lâcherait quoi que ce soit. Il doit être dans la négociation. Si on est logique et qu'on fait un texte pour créer une obligation vaccinale et qu'on y met des amendes, bah, il faut continuer, même si on peut moduler effectivement le montant. Puis la deuxième chose, c'est sur la gouvernance de la CPS, nous on a été clair, on a émis des suggestions et on pense qu'on doit sortir rapidement de cette impasse, mais ça ne concerne plus les travailleurs, en tout cas ça ne justifie surtout pas une grève générale.
Voilà, une grève limitée aux professionnels du blocage, c'est ce que dit le représentant patronal du côté des syndicalistes. Au contraire, on affirme que les appels à la mobilisation ont bien été suivis, mais qu'ils ont été ciblés justement pour éviter une balle à réaliser du pays. En témoigne selon eux l'accord conclu avec les aconiers pour décharger les deux cargos arrivés ce matin, l'absence de blocage d'entreprise ou encore le protocole signé par la CSIP en fin de semaine à EDT et l'OPT. Écoutez Cyril Le Gaïc, chef de file de la CSIP justement.
Qui ont eu déjà des difficultés dans la crise sanitaire. Mais ici, en ce qui me concerne, la CSIP, ça a été bien suivi. À l'aéroport, à l'OPT, à l'EDT, à les services de l'équipement, à la brasserie. Chez moi, ça a été suivi. Peut-être chez mes camarades, ça n'a pas été suivi.
Les négociations doivent reprendre aujourd'hui à 16h30 et un protocole d'accord ne serait pas loin. Un protocole qui fait déjà débat côté patronat, notamment en ce qui concerne l'augmentation de 2% du salaire minimum qui pourrait être acté en décembre. Pour Christophe P, cette décision pourrait se cumuler à une revalorisation automatique du SMIG, obligatoire en cas d'inflation. Et de l'inflation entre le prix des matières premières, des transports et la TVA sociale, il risque d'y en avoir, explique-t-il. Écoutez-le.
Si jamais le président prend la décision d'augmenter le SMIC avant, ça voudra dire qu'on pourra cumuler la décision du président en passant par le CESEC, plus l'augmentation annoncée due à la mise en place de la TVA sociale par le propre gouvernement du président. Donc on a un risque d'augmentation du SMIC massive si on fait ça. Donc il est urgent d'attendre le début de l'année pour qu'on puisse mesurer l'inflation qu'il va y avoir pour pouvoir discuter d'une augmentation du SMIC et certainement pas de faire une augmentation du SMIC politique sous pression des syndicats.
Voilà, toutes les informations sur cette grève et sur les négociations de cet après-midi sont à suivre sur radio1.pf.
Et les syndicats, justement, ne sont pas les plus assidus au conseil d'administration de la CPS.
Oui, en plein débat sur la gouvernance de la protection sociale, Radio 1 a publié ce matin les tableaux de présence des administrateurs de la CPS. Un document qui montre que seuls 3 des 14 représentants des salariés ont assisté à tous les conseils d'administration depuis le mois de mai. Patrick Galnon fait plutôt partie des bons élèves, mais certains, comme Patrick Taharoa de la CSIP, cumulent 4 absences sur 9. Séances. René Frogier de Otaï en compte 6 et le secrétaire général de Oe Toe Rima affiche 7 absences sans suppléant en 9 conseils. Côté patronal ou politique, on est un peu plus assidu, mais le maire des Gambiers, Vai Gooding, conclut aussi 7 absences. Rappelons que le règlement intérieur prévoit normalement qu'après 3 absences injustifiées et consécutives, les administrateurs peuvent être démis d'office de leurs fonctions.
Et le jury du Miss France 2022 dévoilé.
J-12 avant la grande soirée d'élection et c'est l'heure pour le comité de Miss France de présenter le jury de cette année. On y trouve notamment la chanteuse Amel Bent, l'humoriste Inès Reg, mais aussi Delphine Vessiper qui a été Miss France en 2012. Du côté des hommes, on trouvera François Allu, premier danseur à l'Opéra de Paris, aux côtés de l'acteur Philippe Lachaud et de l'humoriste Ahmed Silla. C'est le journaliste Jean-Pierre Pernaud qui présidera ce jury. Ils devront partager les 29 candidates au titre réunis dernier en Normandie après leur voyage de préparation à La Réunion. Le Fénois, bien sûr, retient son souffle et fait bloc derrière Toumateata Buisson pour soutenir notre Miss Tahiti. Rendez-vous le 11 décembre.
Et Gunter Poli en conférence au Fénois.
Son nom ne vous dit peut-être rien, mais cet auteur et entrepreneur belge est parfois surnommé le Steve Jobs du développement durable. Il est notamment connu pour avoir théorisé le terme d'économie bleue et c'est la raison pour laquelle la CCISM l'a invité dans le cadre d'un travail de fond sur l'économie circulaire. Sa mission, promouvoir auprès des décideurs polynésiens des modèles plus durables et aider la Chambre à faire émerger des projets d'économie bleue. À l'entendre, la Polynésie a du potentiel de ce côté.
Toute transition industrielle, écologique, sociale démarre toujours dans la périphérie. Dans la périphérie, on a une plus grande flexibilité et sensibilité pour s'adapter à ces nouvelles réalités qui s'imposent. Et soit c'est changement climatique, c'est soit nouvelles formes de concurrence, vous êtes dans la périphérie, vous avez l'opportunité, la liberté de faire une transition beaucoup plus vite et beaucoup plus profonde, avec des résultats beaucoup plus sérieux pour votre population que vous ne vous imaginez.
Voilà, le spécialiste belge visitera plusieurs îles durant son séjour pour identifier des opportunités et il ne manque pas d'idées. Il s'est par exemple exprimé sur la problématique des pommes de terre de Toubouaï et qui pourrissent souvent sur les quais, faute de transport maritime. Écoutez-le.
Les pommes de terre ont une possibilité de produire un alcool de très haute qualité qui est aussi idéal pour en produire un gel hydroalcoolique. Avec l'almidon, on peut monter une unité de production de bioplastique. Et l'unité de bioplastique me paraît, avec le problème des nanoparticules plastiques dans l'océan tout le temps, et si vous avez le luxe d'avoir un excédent de pommes de terre, moi je dirais on met immédiatement une petite usine pour les bioplastiques.
Voilà, reste à savoir si les beaux projets prendront réellement le pas sur les beaux discours. En tout cas, vous pouvez venir écouter Gunter Poli parler économie verte et bleue à la CCISM. Ce sera mercredi 1er décembre.
Et le tome 4 des Aventuriers du Pacifique est paru.
Daniel Pardon poursuit son voyage dans le temps avec l'avant-dernier tome des Aventuriers du Pacifique, aventurier avec des guillemets, car Daniel Pardon convient que le terme n'est peut-être pas tout à fait adapté puisqu'il recouvre à la fois des gens très bien et des gens pas bien du tout. 20 nouveaux portraits de personnages hauts en couleur arrivés dans le Pacifique au nom du sabre, du goupillon ou du commerce. Objectif, raconter par leur biais 500 ans de bouleversement du Fénois et de sa région, de petites et de grandes histoires. Et bien sûr, dans cette galerie de personnages, l'auteur a ses préférés. Écoutez-le au micro de Caroline Perdry.
J'aime bien Jack Anton. C'était un Écossais qui s'est retrouvé perdu dans une tribu en Mélanésie et qui est devenu, par la force des choses, un redoutable chasseur de têtes. Il est d'ailleurs populaire aux îles Salomon. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'il a fini décapité, tué par d'autres chasseurs de têtes dans un autre archipel. Il y a des personnages qui sont très étranges. J'ai par exemple un Wilhelm Solf. C'est vraiment le prototype du colonialiste allemand. Rigoureux. C'est le seul qui ait réussi à construire des routes, des écoles, des hôpitaux, à former le personnel local. Et maintenant, au Samoa indépendante, on a parfaitement en mémoire le fait que jusqu'en 1914, les Allemands ont fait tourner le pays magnifiquement. Et à partir de 14, le pays n'a cessé de dégringoler.
Daniel Pardon, qui prépare déjà le cinquième et dernier tome de cette collection qu'il avait commencé, parce que dit-il, à part Cook, Bougainville et La Pérouse, on ne connaît personne. En attendant, Les Aventuriers du Pacifique, tome 4, est publié par Happy Edition et disponible dans toutes les bonnes librairies. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On passe à l'écoute de votre répondeur sur Radio 1 et Italia FM.